Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois rien bouleverser.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel. Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux. Get out.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Ce soir, ici au studio de Transistor, on est avec Nathan et Laura, bonsoir à tous les deux. Et pour ce soir, un épisode peut-être un peu plus petit que d'habitude, avant notre hors-série Sport et Cinéma à la journée de la radio ce mercredi 10 avril. Et une fois n'est pas coutume, on va partir dans l'animation avec le dernier épisode de ce qui est désormais une tétralogie, le nouveau volet des aventures de Po, le panda débonnaire, héros de Kung Fu Panda, dont le premier épisode est sorti en 2008, ce qui ne nous rajeunit pas. Renarde voleuse, panda chef spirituel et caméléon venu voler le Kung Fu des morts, c'est parti pour le 22e épisode du Comptoir du Cinéma. Sans plus attendre donc, penchons-nous sur Kung Fu Panda 4, réalisé par Mike Mitchell et Stephanie Stein, ils se sont mis à deux, suite des aventures de Po, le panda amateur de ravioli que nous connaissons bien. Alors Kung Fu Panda, c'est un peu comme Dune, c'est quand même mieux d'avoir vu le précédent pour comprendre, ce qui n'était pas mon cas, moi je me suis arrêté aux deux premiers que j'ai vu et revu quand j'étais petit, mais j'avais regardé une petite vidéo récap de Kung Fu Panda 3 qui m'a donné toutes les clés nécessaires. J'exagère un peu la complexité du film, mais petit résumé quand même de contextualisation. Le premier Kung Fu Panda avait vu ce panda pato serveur dans le restaurant de son père adoptif, une oie nommée Monsieur Ping, être choisi par Maître Oogway, une vieille tortue pleine de sagesse au seuil de la mort, pour devenir guerrier dragon au palais de Jade. Au grand dam de Maître Shifu, qui est le professeur, et de ses 5 élèves, tigresse, mante, singe, grue et vipère. Po avait fait ses preuves et avait vaincu Tai Lung, terrifiante panthère des neiges, frustrée de n'avoir pas été, elle, choisie. Dans le 2, il affrontait le seigneur Shen, un pan blanc qui avait tué sa famille. Dans le 3, après avoir soldé les affaires inachevées de Oogway en vainquant le général Kai, et après avoir retrouvé son père biologique qu'il croyait mort, Po acquérait le titre de Maître Po. Et le bâton de la sagesse d'Oogway lui permettant de mettre à bas des ennemis et d'accéder au royaume des esprits, dimension parallèle où se trouvent tous les maîtres du Kung Fu. Dans ce nouvel opus, Po reste un peu immature et glouton, et n'a donc aucune envie de mener à bien la nouvelle mission que lui confie Maître Shifu, à savoir trouver son successeur en tant que guerrier dragon et de devenir lui-même le guide spirituel de la vallée de la paix. Si, si, je vous assure. Alors qu'il galère à l'accepter et à trouver qui, le bruit court que Tai Lung est revenu. Il n'en est en fait rien. C'est une sorcière polymorphe, la caméléon, qui a pris son apparence et qui peut prendre celle de qui elle veut. Po se met à sa recherche, accompagnée de Jen, une jeune renarde voleuse qui saurait apparemment comment atteindre cette sorcière. Bon, c'est assez simple comme intrigue, la trame des épisodes précédents est réduite à la portion congrue, hein, les 5 cyclones n'apparaissent d'ailleurs même pas, mais c'est le moyen pour le film de se reconcentrer sur le panda du titre. C'est une recette qui fonctionne et qui, moi, m'a vraiment convaincu. À l'inverse de certaines franchises où le sidekick nouvellement introduit pour intéresser les générations plus jeunes, puisque oui, dites-vous que les gens qui sont nés l'année où le premier film est sorti ont 16 ans, où ce sidekick donc prend le pas sur le personnage principal qui est en arrière-plan, ici Po est de tous les instants et on rit bien. Il n'y a pas de baisse de rythme, le film dure 1h34 donc ce serait quand même un peu dommage, et réussit bien mieux le comeback de ces personnages que ne l'avait fait à mon sens le très 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 surcoté Chapeauté 2. Mon petit bémol ce sera sans doute cette caméléon, mais on pourra en reparler. Qu'en avez-vous pensé? Et on commence avec Nathan.
Alors moi je suis un petit peu plus mitigé que toi, je dois dire que quand même je vais pas bouder mon plaisir, j'ai passé quand même globalement un bon moment, je suis un peu retombé en enfance, moi j'étais un très très grand fan des deux premiers Kung Fu Panda quand j'étais petit, donc alors j'avais raté le troisième, mais visiblement ça m'a pas manqué, j'ai pas trop eu de mal à suivre l'intrigue, mais je trouve qu'il y a quand même des petits soucis sur lesquels on va revenir, mais qui sont pas dramatiques et qui sont des écueils assez fréquents dans les suites, en particulier dans les suites de films d'animation. Voilà, notamment, justement, moi je trouve que le rythme laisse un petit peu à désirer, notamment dans la deuxième partie. Mais voilà, enfin, on y reviendra, je pense.
Merci beaucoup. D'ailleurs, à ce sujet des séquelles, des sequels, pardon, mais qui sont aussi des séquelles, je n'ai pas fait exprès, mais le réalisateur, le co-réalisateur Mike Mitchell, c'est aussi lui qui a fait Shrek 4 et La Grande Aventure Lego 2, qui ne sont pas des succès critiques et publics. Donc c'était, la plupart des gens ne sont pas allés voir le Kung Fu Panda 4 pour cette raison. Okay. Ils ont eu un peu tort, à mon sens, mais on en reparle. Laura, qu'en penses-tu ?
Moi, je partage le même avis que Nathan globalement, c'est-à-dire que j'ai moins aimé cet épisode de Kung Fu Panda, même si les autres, je les avais vus quand j'étais très jeune, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais je compare aussi à d'autres films d'animation comme Shrek, par exemple, là où j'ai beaucoup ri. Et je sais pas si c'est parce que peut-être j'ai vieilli, et c'est peut-être l'âge qui fait que j'ai du mal à accrocher à l'univers. Mais en même temps, non, parce que récemment, j'ai revu Shrek et j'ai quand même ri. Donc je me dis que c'est peut-être certains aspects dans Kung Fu Panda 4 qui m'ont un peu dérangé et qui ont fait que j'ai pas accroché plus que ça, finalement.
Merci beaucoup. Oui, on va essayer d'éviter que ça devienne Pascal Praud vous écoute cette émission et qu'on soit juste vieux et un peu aigri. Non, mais je plaisante. Mais c'est vrai qu'on retrouve certains ingrédients qui font que la recette Kung Fu Panda marche. Après, il y a des choses où ici, c'est effectivement un peu plus raté, il faut le dire. Dans la scène d'ouverture, en comparaison moi, de celle des deux premiers, de l'évasion de Tai Lung et de la présentation du méchant dans le deuxième, est un peu faible ici. On est encore une fois dans une mine, voire un camp de travail, en fait, qui est alors un lieu infernal qui peut foutre les jetons, mais l'antagoniste n'est pas très bien présenté. Moi, c'est quand même le gros problème du film, cette caméléon. Et puis en plus, elle apparaît même quasiment comme une ressucée évidente des films précédents, puisqu'on a l'impression que c'est Tai Lung, donc le méchant du premier, qui revient. Et il y a un peu ce problème, moi, avec donc, la caméléon, c'est qu'elle arrive toujours par à côté. Il n'y a aucun climax où on se dit genre « Ah ouais, là, elle en jette ». Moi, quand je me souviens quand j'étais petit, le Seigneur Shen du Kung Fu Panda 2, c'était vraiment des frissons parce que bon, il génocide les pandas quand même. Il était intelligent, rusé et c'était. Là, ici, elle est un peu plus terne.
Ouais, moi je suis assez d'accord sur le ce personnage-là. Enfin, moi au début, bon, effectivement, la scène d'intro est vraiment assez bâclée. Et moi je pensais sincèrement que c'était Tai Lung qui revenait. Du coup. Mais en même temps, sa deuxième scène, du coup, celle où elle apparaît vraiment, où on la voit pour la première fois dans son apparence basique, je la trouvais super cool. Genre, j'aimais vraiment, je trouve que son design est super et que justement cette scène d'exposition là est plutôt bien, celle où elle est avec les grands, les maîtres de la vallée, ou je sais pas quoi, bref.
Le truc avec les mafieux là.
Ouais, c'est ça, voilà. Mais c'est vrai qu'après, petit à petit, elle devient juste une super méchante qui a pas plus de caractéristiques. Que ça. Et finalement, beaucoup de bruit pour pas grand chose aussi, parce que sans vouloir spoiler, à la fin, elle fait pas trop le poids et on s'en débarrasse assez facilement quand même.
Oui.
Donc c'est vrai que ce personnage-là, c'est plus un regret qu'un vrai souci, je trouve, parce que le postulat de départ est bien, même le côté qu'elle se transforme et tout, c'est quand même plutôt. Ça ouvre plein de possibilités et c'est pas, à mon avis, assez exploité. Mais même plus globalement, je trouve que le scénario est assez poussif et que c'est regrettable. Globalement, pendant les premières minutes, comme j'ai dit, j'étais vraiment à fond, j'avais l'impression d'être un enfant et tout. Mais petit à petit, le film s'essouffle et j'ai fini par rester un peu en dehors. Et alors qu'au début, j'étais vraiment dedans et je riais, etc. Finalement, à un moment, je me suis rendu compte, en prenant du recul, que j'étais en train de phaser devant le film sans vraiment être dedans. Et voilà, je pense que c'est quand même dommage. Ouais. Et je pense pas que ce soit une question d'avoir vieilli, pour le coup, je ne suis pas Pascal Praud, parce que...
Mais je suis pas Pascal Praud non plus.
Disclaimer, nous ne sommes pas Pascal Praud.
Non, mais parce que j'ai revu le 1 et le 2 il y a pas si longtemps, il y a quelques mois, et que alors c'était peut-être par nostalgie, mais j'avais vraiment beaucoup aimé, quoi. Donc voilà.
Moi aussi, j'étais aussi d'accord que la caméléon, elle m'a pas marqué plus que ça. En plus, pour une super méchante, elle m'a pas fait un super effet, on va dire. Et même ses motivations, je les trouvais tellement peu recherchées. Enfin, je veux dire, c'était juste, je vais envahir la vallée en me transformant. Je vais pas spoiler en fait, mais. Bref, c'était pas très développé. Et la fin, le combat final, je suis d'accord, c'était hyper décevant. Et j'ai trouvé super court et expéditif. Alors, je sais pas si c'est parce que les films d'animation en général sont assez courts, parce que peut-être c'est pour un public plus jeune. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça super court et hyper facile aussi comme combat.
Oui, oui, non, c'est vrai. C'est vrai parce. Enfin, pour rester sur la caméléon, elle est effectivement traitée en 2-2 par le film. Elle a pas d'origine story valable. Vraiment, en gros, c'est on lui a fermé les portes du kung-fu parce qu'elle était trop petite. Enfin, bro, dans les 5 cyclones, il y a une menthe religieuse,
oui,
vraiment, quoi. C'est pour ça que je pense
oui,
qu'on
c'est
les...
vrai,
c'est
vrai,
pour ça qu'on les
voit
pas.
Et en plus,
pas,
elle peut se transformer, donc.
Oui, vraiment.
Ouais, non, mais
c'est pas très crédible.
Donc, tu sens que son traitement vaut pas le coup et qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu à. Oui.
Et puis elle sort d'où, enfin moi c'était ma question.
Oui, c'est enfin voilà, c'est ça, elle a enfin ouais, elle est vraiment, tu sens qu'ils l'ont vraiment rajouté à la dernière minute. Enfin qu'ils avaient une méchante qui effectivement graphiquement tient bien le coup et ça le côté enfin ses robes sont très belles, elle-même elle est assez elle peut être assez impressionnante. Après moi je suis pas forcément d'accord sur sa scène réelle d'introduction. Nathan, je trouve que bah il y a pas vraiment d'enjeu dans la mesure où elle apparaît avec donc la pègre de Juniper City qui est la ville où ils se rendent et elle pousse juste quelqu'un dans les escaliers en fait, elle fait pas peur comme Tai Lung était une espèce de force brute ou le seigneur Shen qui était ultra sanguinaire. C'était amusant en revanche d'avoir le jeu avec les codes de la mafia un peu triade chinoise quand elle se retrouve avec donc cette pègre là, mais il fallait en faire quelque chose et trouver en fait un bon équilibre avec les scènes de combat qui, comme tu le disais Laura, sont pauvres et sont nécessaires dans ce qui est quand même un film de kung-fu, quoi. C'est pas, je veux dire, on pourrait dire oui c'est un film pour enfants, mais enfin s'il est quand même catégorisé comme film d'arts martiaux aussi en plus de comédie animation et tout. Et en fait elle est tellement soulignée comme le potentiel plus grand ennemi de Po, ils arrêtent pas de répéter. Alors bon, je l'ai vu sans le faire exprès en anglais, donc shape-shifting sorceress, et c'en est presque comique, c'était presque un ressort comique car ils n'arrêtent pas de le dire tout le temps, que bah, en fait son apparition un peu déçue, c'est un peu raté, mais oui le combat final était effectivement frustrant, d'autant plus que c'est réglé avec quelque chose. Bon, enfin, tant pis pour le spoil. C'est réglé avec le bâton vert que Po et la renarde ont eu avec eux pendant tout le film. Et vraiment, genre, à partir du moment où ils l'utilisent, en deux coups, c'est réglé. Il n'y a même pas besoin. Enfin, tu te dis, bon, bah, il y avait vraiment, a posteriori, encore plus aucun enjeu là-dedans. Et c'est dommage, parce que même à l'égard d'autres films pour enfants qui contiennent des combats, si je prends, je sais pas, Le Chapoté ou Kung Fu Panda, les deux premiers, il y a des vraies scènes attendues et qui marchent bien, quoi.
Ouais, bah, je suis d'accord, mais même de manière générale, je trouve que le scénario est assez. Enfin, qu'il y a pas mal d'écueils, que c'est très très téléphoné et prévisible, plus que les opus précédents. Ce soit dans les retournements de situation qui deviennent du coup archi quelconques, ou dans l'évolution des personnages et l'avancée du film. Enfin, par exemple, on tombe très vite dans une espèce d'aller-retour quasiment automatique d'un arc narratif à l'autre, genre de Po et la renarde. À ses deux pères qui les suivent on n'arrête pas de revenir de l'un à l'autre et tout, ça devient vraiment très téléphoné. Le pseudo twist avec le personnage de la renarde,
on le voit venir à des kilomètres, une maison,
quand même. Ouais, voilà. Donc mais je trouve que ça c'est quand même dommage. Après t'as souligné du coup le design de la caméléone, et globalement quand même, évidemment, l'animation est excellente en vrai. Enfin, je m'y connais vraiment très peu en animation, donc je ne vais pas en parler longtemps, ce qui est un problème quand on parle d'un film d'animation. Mais il y a quand même un jeu sur la 2D, la 3D, que même moi, j'ai à peu près su apprécier, avec des arrière-plans qui sont en 2D, et qui du coup donnent un petit côté toile peinte derrière l'action au premier plan. Il y a un art de la transition aussi, enfin, genre, dès les premières minutes, je trouve... l'enchaînement intro, puis le titre, puis la silhouette de Po, ensuite la scène qui fait un peu Deus Ex Machina, mais qui est vraiment très réussie visuellement, où ils expliquent où sont les différents... les cyclones, les 5 cyclones.
Les 5 cyclones.
Voilà.
C'est drôle en plus.
Oui, c'est assez marrant. Et je trouve que d'un point de vue de l'animation, ça marche très très bien. Mm. Alors, bon, et puis certes, c'est plus facile à faire quand c'est de l'animation, mais en termes de fluidité, ça a quand même plus de gueule qu'un fondu au noir. je tenais à le dire. Même si le film se termine sur un fondu au noir, donc là j'étais très énervé, évidemment. et ce qui est assez symptomatique du film, je trouve, du coup, du fait qu'ils s'essouffent petit à petit et qu'il y a un moment ils ont rempli le cahier des charges, du coup ils se sont dit on va rien faire de plus, et du coup ils ont plié le film assez facilement, ce que je trouve dommage. Voilà.
Mais justement pour revenir sur le fait que ça plie facilement, en fait il y a plein de choses, Moi, la plupart, quand j'ai réfléchi à ce que je pensais du film, à chaque fois, c'était le terme expéditif qui revenait, parce que même tu parlais des 5 cyclones, oui, l'animation est belle, mais en tout cas, on les expédie très rapidement. Enfin, je veux dire, ils sont partis faire quelque chose, on ne sait pas quoi, mais personne n'est là. Donc ça, c'est réglé. Et puis après, il y avait un autre truc aussi. Oui, c'est que c'est dans le 3 que Poe devient le guerrier dragon, je crois.
Non, c'est dans le premier.
C'est dans le premier.
Dans le 3, il prend juste un bâton, je crois.
Oui, il prend le bâton vert qu'on a dans le film.
Autant pour moi. Mais je trouvais qu'il partait à la retraite tôt. Il aurait pu attendre un peu.
C'est quand même un argument assez télescopé. Tu te dis, elle est restée des siècles.
Mais c'est ça, mais c'est
Je le vois encore jeune, encore pâteau, il doit devenir guerrier spirituel. Je sais pas. Et puis en plus, spirituel, oui, mais du coup, j'ai l'impression que c'est pour ça. Le film s'est concentré sur ça aussi, sur l'aspect philosophie un peu carton. Et manquait peut-être de combat, justement. J'ai un peu sur cette... je sais pas, il faut qu'on soit amis, il faut savoir pardonner. Enfin, je sais pas, il y avait plein de sortes de messages...
Ouais, alors, là-dessus, moi, je trouvais ça assez amusant que le film se moque un peu des aphorismes, citations qu'il y avait beaucoup dans le premier film. Les citations westfrance.fr de Hugues, qui montraient à Poe comment s'en sortir, etc.
Tu penses qu'il se moquait de ça?
Là, j'ai l'impression qu'il y a une petite distance dans ce film-là, dans la mesure où...
Le truc du noyer de pêche et tout.
Oui, il y a ça, mais c'est le premier degré. Mais après, tu vois quand même Poe qui galère à en trouver, qui dit des trucs un peu débiles. Et qui finit par, je veux dire, c'est aphorisme, on va comprendre que c'est sur la bouffe comme tout pour lui, qui quand même, le ressort est comique.
Mais c'est quand même le noyau de pêche qui sauve la Poe de Zen et qui lui donne du courage. Oui. Et de Poe, tu vois.
Ouais. Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais c'est
un peu moyen comme. Puis vu revu surtout aussi. L'histoire de...
Oui, non, mais c'est sûr que c'est vu et revu, mais je trouvais ça quand même... j'ai tellement vu des gens qui prennent au premier degré les citations de Kung Fu Panda pour des trucs philosophiques, que là, le voir en train de dire le plus grand ennemi de la vie, c'est les escaliers. je trouvais ça assez amusant. Et puis, au-delà, effectivement, c'est moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que une fois que j'ai admis qu'il n'y aurait pas beaucoup de combats, qu'il fasse le choix de la comédie, vraiment, avec des trucs qui fonctionnent. Moi, l'une des meilleures scènes du film, c'est celle qui est à l'auberge, puisque ça associe à la fois, une grosse bagarre très bien animée. Là-dessus, je te rejoins aussi, Nathan, sur l'animation. Jen, à un moment, qui fait sa carène en demandant à voir le manager.
C'est original, le lieu est original aussi.
Oui, le lieu est très original. Il y a une scène de Mahjong avec une tenancière façon In the Mood for Love. Et puis... c'est drôle aussi de voir les conséquences d'une bataille pour le coup quand le duo de personnages qui sont les deux paires de Poe tu disais que Nathan il y avait cet aller-retour constant, il repasse dans cette auberge et là en fait on voit ce qui se passe après les batailles qu'on voit tout le temps dans les films et ça j'ai trouvé ça assez rigolo mais parce que c'était assez bien même très bien servi par les comédiens de doublage. Alors moi j'ai jamais vu Kung Fu Panda en anglais du coup jusqu'à la séance de Kung Fu Panda 4. Donc j'avais toujours Manu Payet et Pierre Arditi dans la tête. Là, c'était Jack Black et Dustin Hoffman qui fait Shifu. Et ça marche vraiment très bien. Je sais que c'est aussi moi ce qui m'a permis de quand même bien m'accrocher au film. La caméléon et Jen doivent beaucoup au charisme de leur comédienne. Donc ça, c'est assez cool. Et puis, dans les trucs drôles aussi et inattendus et qui, moi, me font quand même valoir le coup, c'est la cover totalement gratuite de Britney Spears à la fin.
Moi, j'ai bien aimé.
J'ai adoré. Ça n'a aucune espèce de justification.
Non, mais...
Même dans les paroles, j'ai essayé d'en trouver. À part My Loneliness is Killing Me. Oui,
coucou.
Ouais, possible. Mais c'est vraiment parce que Jack Black avait envie de chanter du Britney Spears, je pense. Mais c'est assez drôle, en vrai. Qui fait que on peut quand même l'apprécier même si on n'est pas un tout petit enfant, je trouve.
Oui, je suis d'accord que c'est globalement toujours très drôle, quoi. Il y a des dialogues qui marchent très bien et je l'ai vu en VO aussi et il y a de très bons jeux de mots en VO du coup, donc je sais pas comment ça rend en VF, mais et c'est vrai que Jack Black est très en forme, même au début dès la scène d'intro, moi j'étais en fou rire avec les chefs qui se saluent en disant mais oui. C'est très marrant, ouais. C'est débile mais c'est très drôle. Mais après c'est vrai que je reviens un peu sur ce que vous avez dit avant, mais il y a un côté un peu artificiel dans le ah bah voilà, faut déjà qu'il parte à la retraite, du coup il y a toute cette démarche de remise en question, de il accepte de chercher un successeur et de se mettre en retrait et tout. Ça, c'est un peu gratuit et c'est, ouais, c'est assez artificiel et c'est un peu dans la lignée de tous ces derniers opus de saga d'animation qui proposent un truc sur la transmission. Enfin, je sais pas, il y en a plein, genre Cars, j'en avais un autre en tête tout à l'heure, mais je l'ai oublié. Mais enfin, voilà, genre que des trucs où le personnage doit lâcher l'affaire et laisser la relève, etc. Et c'est un peu facile, je trouve.
Oui, parce qu'en plus, c'est vrai, j'ai vu que ça ouvrait... en fait, c'était le premier d'une potentielle nouvelle trilogie avec, du coup, la fille en personnage principal, la renarde.
Ça, c'est un peu trop, peut-être.
Ouais, c'est un peu trop. Ça épuise le filon, en fait. Non, parce qu'en fait, DreamWorks a du mal à faire des trucs qui marchent aussi en ce moment, donc je comprends qu'il...
Mais moi, c'est pour venir à l'humour dont tu parlais tout à l'heure. Moi aussi, il y a des choses qui m'ont fait super rire. Bon, les chèvres, je me souviens plus. Mais par contre, c'était les trois lapins trop kiki, en fait, pas du tout. Ça me faisait vraiment penser au... Je sais pas si vous avez vu la scène dans les Monty Python avec le petit lapin trop mignon.
Oui. Oui.
Bon, voilà quoi. Et du coup, ce genre d'humour, ça me faisait rire. Et il y a d'autres blagues qui me faisaient moins rire parce que je me... Enfin, je savais pas trop si c'était une forme de un peu pinkwashing, un peu genre LGBT friendly et tout. Par exemple, quand il dit, il parle de ses deux pères et que le héron, non, c'est pas un héron, c'est un pélican, dit il faut tout pour faire un monde. Je sais pas, moi je trouvais ça un peu gênant. Ou alors, il rentre dans la taverne, ils font c'est qui le patron et non, c'est une patronne et tout. Enfin, je sais pas si c'est un peu en mode. Oui. Et au final, tu te rends compte que dans la taverne, il y a quand même que des hommes. Enfin, je veux dire, plein de trucs comme ça où j'étais un peu en mode.
Ouais, après moi.
Est-ce qu'il faut pas trop réfléchir ?
Après, c'est un film qui fonctionne beaucoup sur les clichés aussi.
Oui, voilà, enfin, c'est ça, c'est le principe genre, des films. Voilà, c'est ça. Genre, et moi, je trouve que justement, le duo de Loi, père adoptif de Po, et son père Panda, marche assez bien comme duo comique.
Ah oui, non, il marche bien. Et... C'est plus les blagues qui sont faites dessus qui m'ont dérangé, moi.
Bon, il y en a une.
Mais je sais pas, en français, elle était traduite bizarrement. Enfin, je trouvais que ça sonnait bizarre.
Moi, ça m'a fait rire en VO, du coup, cette blague en question. Donc, mais après, c'est un peu le principe des films qui font que ça marche aussi avec les adultes, ou alors c'est que je suis toujours un enfant. C'est-à-dire les doubles sens du film. De vannes qui vont faire rire les enfants et d'autres auxquelles ils font pas forcément attention et qui font attention plus en tant qu'adulte. Moi, ça m'a refait ça quand j'ai vu L'âge de glace récemment, le premier, et puis le 3, qui est bref exceptionnel toujours.
Je suis tellement d'accord,
mais merci. mais donc c'est ça qui moi fait que cette comédie, à mon avis, Kung Fu Panda 4 marche pour tout le monde, c'est qu'il y a voilà les blagues qui marchent avec les adultes d'un niveau un peu plus fin que genre le bas corporel et les paix. D'ailleurs, il y a une seule vanne de paix sur tout le film, ce qui pour un Kung Fu Panda est d'une pudeur rare. Et puis il y a aussi ce truc qui fait que le film tient la route, c'est cette base de la comédie en général qui fait qu'une fois adulte, on continue à rire. C'est qu'on rit plus forcément du personnage bête, mais de la réaction consternée de celui qui l'accompagne en arrière-plan, genre typiquement Po et Shifu au début.
Ouais, Shifu est assez marrant, c'est vrai que je me rappelais pas qu'il était aussi drôle, peut-être effectivement à cause de ce truc-là, de cette évolution que tu soulignes, mais. C'est vrai qu'il y a des trucs, quand il dit « je suis un panda roux »,
c'est
très drôle. Avec le flegme de cinéma, en plus, c'était assez marrant.
Et puis ça fait un petit peu, on parle du film, c'est donc mieux vaut que vous l'ayez vu, chers auditeurs. Mais quand, au tout début, là, quand il y a la scène des selfies ou des photos avec, avec la star, tout à coup, il y a Gifu.
Globalement, je trouve que les meilleures vannes sont plus vers le début. Quoi.
Oui, c'est vrai.
Le film parle quand même très fort pour après.
Mais c'est vrai.
Ouais. Mais comme souvent, en fait, les films, si je prends par exemple, après on peut élargir notre discussion sur les franchises et tout. Madagascar 3, c'est un film que j'aime pas du tout.
Ah, j'aime pas, je trouve pas ça drôle.
Du tout, les Madagascar en général.
Madagascar.
Ah non, j'aime beaucoup Madagascar.
Je suis désolée.
Bon, c'est pas grave.
Je glace pour le coup, oui.
Madagascar 2, moi, c'est. Enfin, moi, ça me fait vraiment beaucoup rire. Mais Madagascar 3 commence très bien. Et puis, une fois qu'il monte dans le cirque. C'est fini, il n'y a plus de rythme. Parce que pour le coup, en termes de rythme, c'est vrai que c'est des problèmes qu'il y a souvent dans les films de ce genre. Là, je trouve que sur l'heure 34 que ça dure, c'est assez soutenu. Peut-être même trop, parce que du coup, il n'y a pas le temps d'explorer certains trucs intéressants. Tout le, tous les bas-fonds de la ville avec le pangolin et cette vie parallèle-là.
Oui, c'est ça, c'est, tout est vraiment rapide et expéditif.
Et expéditive, exactement. Donc là, j'étais un peu frustré, mais en même temps, moi, je ne me suis pas ennuyé, j'étais vraiment pris dans l'action, tout en voyant venir effectivement le truc à des kilomètres. Hein, moi, le twist, c'est vraiment, ils n'en ont rien eu à faire du scénario et voulaient relancer un attrait pour cette franchise. Ça fonctionne assez bien, hein, mais c'est vrai que le twist, on le voit venir à des kilomètres. Si on a vu le premier chapoté, par exemple, c'est quasiment exactement la même animation pour la scène de trahison entre le chat noir, j'ai oublié son nom, Kitty Pat de velours dans le premier chapoté, et Jen dans Kung Fu Panda 4.
À la fin, il y a un petit côté aussi, je trouvais, multivers. Genre, ça fait un peu quand même DreamWorks qui veut faire son Spider-Man Homecoming, quoi, avec tous les méchants qui reviennent.
Oui.
Donc, ça fait un peu beaucoup de teasing et de hype pour un peu un pétard mouillé à la fin, parce qu'il sert quand même à rien, quoi.
Ouais, c'est vrai.
La musique est belle, cela dit.
La musique est belle,
à la fin,
mais
elle est magnifique. Bah, par contre, elle accompagne en continu le film.
Oui, mais j'ai trouvé moins marquante que dans d'autres Kung Fu Panda.
Moi j'ai bien aimé.
Je me rappelle même pas.
Bon, bah, super. cours de musique et cinéma, ça veut dire quoi? Hans Zimmer en plus. Mais qui a décidé. Bah voilà, encore un point commun entre Dune et Kung Fu Panda. Outre que le héros doit devenir guide spirituel.
Ah oui, c'est ça, c'est le seul souvenir de la musique que j'ai. C'est au générique de fin de m'être dit putain, c'est encore Hans Zimmer.
Voilà. Il est vraiment partout.
Ouais, c'est
non, mais bon, après, c'est un film qui est vraiment. Que moi je trouve ingénieux aussi par moments, comme c'est un personnage et son monde. Moi j'ai bien aimé dans les décors, outre donc les fonds peints, comme tu dis, retrouver ces mécanismes toujours alambiqués, ces architectures démesurées, drôles, ces escaliers. Mais que là, bah, c'est ma petite frustration, il n'y a pas eu de vraie scène d'escalier. Alors que le palais est vraiment perché tout en haut, tu as l'impression qu'il va y avoir un truc, et non, ils passent par un couloir d'aération et tout à coup ils y sont. Sans même qu'il soit essoufflé ni rien, et moi ça m'a frustré de ma blague d'escalier, voilà. Mais blague à part, sinon il y avait des trucs assez bien. Là. En fait, ce qui est aussi dommage avec le combat final, c'est que le décor est chouette. Le côté toutes les cages avec les méchants. Alors certes, ça fait un petit peu Spider-Man.
Je pensais qu'ils allaient intervenir les méchants ou faire quelque chose. Ou...
Ouais, non, à la fin, ils sont juste
complexe.
En mode.
Au final,
merci,
ils servent un
bro,
peu à rien. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, je me suis dit que quand la caméléon. Est-ce que je spoil?
Oui,
je,
on a déjà
spoil.
Spoil
bon. Et quand elle aspire leur âme, ça faisait super peur. Je me dis, pour des enfants, enfin, moi j'aurais peur à l'époque tellement c'est bien fait et que ça ressemble un peu au Détraqueur dans Harry Potter. Genre,
il y a un peu. Mais déjà, c'est pour ça que je trouve que c'est dommage qu'on l'ait pas mis en début du film. Au début du film, là, comme ça. D'un coup, elle en jette. Et effectivement, il y a le côté, il tombe par terre. Oui, mais à nouveau, Kung Fu Panda 2, ça commence par le génocide des pandas.
Ouais, mais deux, moi, il m'avait trop marre, hein, je me rappelle. C'était quelque chose. Hein.
Ouais, mais en même temps, il est vraiment super bien, quoi.
C'est le meilleur, quoi.
Ouais, je suis d'accord, mais souvent.
Puis même, ils repartent comme si. Je sais pas.
Oui, c'est vrai qu'il
a posté, puis ils repartent, tu vois.
Oui. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas
ils auraient pu faire un truc avec, je pense.
Il n'y a pas de. Il n'y a aucun enjeu en fait, c'est vraiment une side quest pour Po.
S'il a quand même un compliment.
Oui.
J'ai oublié le nom. Du gros tigre.
Thaïlande. Et bon, pour élargir un peu sur Kung Fu Panda, même si là on est vraiment déjà passé un peu en mode de plus discussion et tout, si vous, il y avait vraiment une franchise de films d'enfance ou qui vous a marqué suffisamment et que vous pourriez dire quelle est la meilleure. Des autres, c'est un peu compliqué évidemment.
Une seule.
Genre vraiment le gros coup de cœur, le truc, tu te dis s'il faut en garder une.
Ça dépend des émotions, du mood dans lequel tu es, non?
Oui, c'est vrai. Mais genre les émotions,
parce
on va dire.
Entre Shrek et Miyazaki.
Oui, non mais c'est pour ça que je pensais à Miyazaki en disant que c'est un peu compliqué. Mais on va dire vraiment genre les franchises du genre Kung Fu Panda, quoi.
Ah du genre, okay.
Oui, parce que il y a un truc de. Enfin, moi je sais pas, je suis plus. Enfin, des films d'animation d'enfance comme ça qui m'ont marqué, auxquels je reviens de temps en temps. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai revu Pinocchio, qui est à mes yeux le meilleur dessin animé de tous les temps. voilà, ça c'est dit. Mais je suis plus sur des films isolés que sur des sagas, en fait, quand j'y pense.
Ouais.
Mais il y en a quand même qui ont marqué. Bah, en vrai, on les a cités. Moi, L'Âge de Glace, j'aimais beaucoup quand j'étais petit.
Je crois que c'est la saga, pour le coup, pareil. Ouais. On s'en lasse pas, quoi. Enfin, il n'y a pas un seul L'Âge de Glace où je me suis dit.
Oui, voilà, parce que le 4
et le 5 sont catastrophiques.
Ah, il y a même eu un 5.
Avec les météorites, là. Oh, il y a Buck qui revient.
Mais je sais pas, moi je trouve que c'est le petit écureuil, il me fait scratch.
Oui, bah, scratch,
oui
c'est,
mais
c'est,
du coup, c'est le meilleur en faire un court métrage. Quoi.
C'est le meilleur running gag de l'histoire du cinéma, Scratch. Enfin, c'est génialissime. Genre.
Alors, je trouve ça incroyable. Juste,
Scratch, c'est le truc pour les troisièmes là, qui apprennent
pour
à programmer.
Je disais Scratch quand j'étais petit, je pense pour ça. Mais alors, l'âge de glace 3 avec les dinosaures là et tout.
Ça, c'est
un chef d'œuvre. Le 3, c'est juste avec pêche et tout ça.
Oui.
Ok, oui.
C'est du génie.
Avec
oui non avec c'est Buck surtout
mais
enfin, oui
Buck mais ouais, tous les personnages sont géniaux quoi, enfin il y en a pas un
créer
qui est...
Buck pour un des enfants, enfin je veux dire
ouais non mais c'est trop
là bien. T'as vraiment un relais spectatorial adulte ouais. En fait
moi c'était mon modèle quand j'étais petit
ah,
mais je trouve ça beaucoup plus subtil comme scénario en plus, enfin je sais pas ouais. Beaucoup plus construit que Kung Fu Panda pour le coup.
Ah oui non mais c'est vrai que c'est enfin les trois premiers Âge de glace sont vraiment un scénario beaucoup bon alors les le premier est un peu plus simple, mais même...
Il faut le trouver,
effectivement. Mais ont un truc un peu plus haut que les autres productions de ce genre. Et même si on regarde sur ce studio, enfin, je sais qu'ils ont fait Rio, qui est quand même pas bien.
Rio, moi, le premier est pas mal, quand même.
Bah, ça chante trop, moi, j'aime pas les chansons. Donc,
ah, ouais.
je déteste les comédies musicales. En fait, donc,
je me rappelle même pas que c'était chanté.
Mais Rio, c'est DreamWorks aussi ?
Non, c'est Blue Sky.
Ah, c'est Blue Sky.
C'est l'âge de glace, ouais.
Ouais, non, moi, Rio, je garde un bon souvenir, mais en fait, moi, il y a un truc qui me fume à chaque fois, c'est de me dire, enfin, d'imaginer les conf calls de quand ils ont décidé de pitch. Mais même l'âge de glace, même Kung Fu Panda, genre, imagine un mec en meeting qui te dit, genre, on va faire un film sur un panda qui fait du Kung Fu, ça va être génial.
C'est génial.
Ou alors un film sur un mammouth à la préhistoire, ok.
Et
Shrek, on va faire un film sur un gros crado.
Mais voilà. J'ai jamais vu Shrek de ma vie, d'ailleurs.
Mais c'est non, un peu plus beau.
Ouais, non,
mais
j'ai
moi, ça me fait
Shrek.
Super rire.
Ah ouais,
vraiment,
je sais. Je...
Oui, c'est vrai qu'on n'a même
mais
pas dit,
pour
mais
le coup,
Shrek, c'est trop
d'habitude,
bien.
D'habitude, c'est dans les premiers films qui sont drôles dans une saga. Moi, je trouve que pour Shrek, c'est plus le 2-3.
Ouais, je suis d'accord. Moi, le 3, je le trouve génial.
Le 3, je l'adore. C'est mon préféré, le 3. Mais le 1, il est drôle, mais moins que le
3. Il y en a qui ont. Enfin, là, pour le coup, l'animation vieillit plus ou moins mal aussi, en vrai.
Oh non, Shrek ?
Non mais je veux dire par rapport au dernier. Non mais par rapport même aux opus qui ont suivi, je veux dire moi j'aime pour le coup beaucoup Madagascar, le premier, je regarde plus pour les vannes que je connais par cœur que pour l'animation qui est pas terrible et qui est
ça m'a pas choqué. Ouais,
ouais ça vieillit quand même mais en voilà. Vrai
ça
vieillit, c'est pas
non ça vieillit pas mal
en fait,
mais
comme il y a pas de scène de
voit,
combat
quoi.
Ou des choses comme ça.
C'est moins choquant qu'un moi dans le genre le film où l'animation le plus vieilli c'est sans doute mais je sais pas si vous allez arriver parce que c'est vraiment c'est dans les limbes de Disney, mais bienvenue chez les Robinson.
Oula.
Putain, ouais, si voilà. Le truc avec le truc. Un agent, non, truc du futur.
Oui, si c'est ça.
En fait, ouais. Mais je l'avais en genre en carte à collectionner ouais. Au champ.
Ah bah.
Bah, j'espère que ma vie vous intéresse. J'espère que vous n'aurez pas arrêté d'écouter ce podcast parce que ça devient un peu n'importe quoi. Mais
alors, bienvenue chez les Robinson. Le film était génial. Moi, j'adorais.
Ça
alors
parle
que.
De quoi
mais c'est hyper compliqué. C'est un,
attends, je peux regarder sur internet.
Un enfant qui voyage dans le futur, il rencontre son fils avec qui il devient pote.
C'est
et en même temps, il y a un autre
version.
Mec qui traverse l'époque aussi pour se venger parce que il le harcelait au lycée ou je sais pas quoi. Enfin bref, en tout cas, c'est très bizarre. Mais le film était super alors que il est souvent considéré comme le pire Disney de tous les temps. Peut-être à raison, je suis peut-être pas objectif, mais moi j'aimais bien. Mais par contre, l'animation est
oui,
dégueulasse quoi. C'est horrible. C'est vraiment. Il y a un plan. Le décor principal du film, c'est le fond d'écran de base Windows. Genre vraiment, tu sais, la dune d'herbe là. Bah, c'est vraiment le décor du film. Genre c'est lunaire. C'est vraiment un gag.
J'espère qu'il est mort celui qui a designé ça.
On souhaite. Stephen J. Anderson, hein, si tu veux tout savoir. Ouais, moi dans les films d'enfants qui pour le coup n'ont pas vieilli, enfin t'en as un peu parlé déjà, c'est les Ghibli, ça c'est sûr que ça,
ouais,
ça reste exceptionnel. Avec
lequel
Princesse
dit,
hein. Mononoke, ça c'est
ah ouais.
Évident, top, indépassable. C'est mon film préféré de tous les genres confondus,
ah ouais
vraiment,
okay.
vraiment. Mais bon après.
Et il date, hein, j'ai regardé, c'était 97.
Ah oui, non, c'est vendu. Mais Nausicaa, c'est années 80 encore plus.
C'est,
hein, c'est, peut-être, c'est encore 10 ans avant, je pense. Mais non, mais dans les Ghibli, par contre, alors moi, il y a un nain que j'aime vraiment pas, de Miyazaki en plus, c'est le château ambulant. Je ne.
Oh non.
Je sais, mais.
Ah non, je confonds, attends, oui, non, ça va. Parce que moi, mon préf, c'est le château dans le ciel.
Oui, le château dans le ciel est super.
Oui, je confonds.
Il est trop mignon.
Château ambulant, c'est vrai, en fait, parce que.
Calcifère et tout.
Ouais.
Il est super marrant.
Le Aoru et tout. Enfin, là. J'ai vraiment du mal. Je comprends rien, en fait. Et. Bon, c'est.
Bah, Mononoke, c'est pas plus simple.
Bah, Mononoke, c'est.
Il parle quand même en esprit de la forêt.
Oui, mais au moins, c'est.
Au moins, c'est clair.
Ouais, au moins, c'est clair, en vrai. Certes, c'est complexe, mais on s'y retrouve. Je suis en ambulance, et oui...
Bah, c'est plus ça part.
D'un coup, il a les cheveux noirs.
Ça t'a perturbé.
Non, mais enfin, je veux dire... Puis en fait, c'était le classifère, c'était pas juste un petit running gag. Donc, ouais, c'est... Mais après, bon, c'est sûr que ça vieillit bien aussi, précisément, du fait de leur complexité, les Ghibli et encore plus les Miyazaki.
Moi, il y en a un, je sais pas si c'est mon préféré, mais en tout cas, c'est celui qui m'a vraiment marqué. C'est le tombeau des Lucioles.
Ah ben oui, ouais. Mais là...
J'ai fait que pleurer.
Autre geste. Voilà.
C'est vraiment autre geste. J'ai fait que pleurer et il m'a vraiment marqué. Mais alors, pourtant... Je sais pas si c'est de la grande animation ou quoi.
Ah si, 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 quand même, c'est quand même... Enfin, moi, je trouve ça, tout est parfait dans ce film aussi.
Il est horrible.
Ah ouais. Ah, mais, bien sûr, il est horrible.
Il est génialement horrible.
Là, on a pas mal dérivé de Kung Fu Panda 4, mais c'est vrai
oui.
que...
Oui, t'as dit dans le genre Kung Fu Panda.
Là, un autre pareil de Ghibli qui, moi, m'avait traumatisé, mais plus encore que Le Tombeau des Lucioles, parce que Le Tombeau des Lucioles, c'est horrible, etc. Mais... Moi, c'est les contes de terre et mer.
Ah oui.
Je l'ai jamais vu, celui-là.
Et bah,
il est étrange.
Ah ouais, il est.
J'ai pas tout compris.
Tellement flippant, genre c'est vraiment, c'est le plus fantastique, je pense. Ouais. Et il m'avait, mais.
Et c'est pas Miyazaki, si ?
Non, je crois pas. Je sais plus qui c'est.
Non, mais... C'est pas son fils, celui-là.
Bah, il me semble. Ouais, c'est ce que j'avais peur de dire une connerie, mais je crois que c'est ça.
Continue à parler, je regarde.
Bah, en tout cas, ça m'avait traumatisé. Il y a la sorcière à la fin qui transforme en gadou.
Mais je crois que ça... enfin, je suis pas sûre, mais il y a aussi. Je crois que ça vient pas d'un livre de science-fiction qui a été écrit par.
Ah, c'est possible. Je sais pas du tout.
Si, si, c'est une adaptation d'Ursula Le Guin. Okay. Et c'est effectivement son fils. Ouais.
Ok, bah voilà. Donc, ouais, terrible.
Mais oui, sinon, du style Kung Fu Panda, j'allais dire Dumbo, mais c'est un peu vieux, peut-être.
On parlait de Pinocchio.
Moi, je suis méchant aussi. Moi, je suis méchant.
Ah, oui.
Ça, j'aime bien.
Ah, oui. Bah alors là, moi, je suis. Ah, bah, typiquement, en fait. Moi, chez Méchant, ça illustre une dérive.
Super, je me fais encore.
Non, mais pas du tout, genre, c'est le 3.
Entre Pascal Pro.
Non, mais.
Enfin, le 11.
Mais la franchise Moi, chez Méchant, c'est ce que je craignais de Kung Fu Panda 4, en fait. C'est-à-dire mm-hmm. que. C'est, et qu'il y a dans le chapeauté 2, je m'explique. C'est les espèces de démesures colorées, un peu genre vomitives, de couleurs, et qui sont juste. On est complètement perdu et ça en devient moche.
C'est-à-dire genre, le jaune des mignons t'a perturbé.
Non, pas le jaune des mignons, mais dans Moi, Moche et Méchant 3, il y a cette espèce de chewing-gum partout.
Ah
c'est,
non, ça
c'est assez
pas.
Insupportable.
Non. Je te parle du premier, moi.
Ah oui, d'accord, mais d'accord. Mais
ah oui, non, de l'intégralité des franchises. Que ça part, oui, d'accord.
Mais
les mignons, celui consacré aux mignons est très drôle quand même.
Le premier, j'ai pas vu le deuxième.
Ah, moi non plus.
Mais le premier, alors j'ai pas revu depuis que j'avais vu au cinéma, donc c'était. J'étais en 5e, c'était il y a 11 ans. Non, il y a 10 ans. Oui, ça m'a fait rire aussi, vraiment. Mais...
Comme d'ailleurs les pingouins de Madagascar, pareil, le spin-off.
Ah non, ça, je déteste ce film.
C'est drôle.
Alors, en fait, moi, j'adore tous les passages avec eux, mais dès qu'il y a le poulpe, c'est moche.
Ah ouais, mais je me rappelle pas très bien, mais je me rappelle de la scène avec les Cheetos.
Oui, ça, c'est très drôle.
Mais ça m'avait, mais j'étais en larmes de rire plus que devant n'importe quel autre film, je crois,
c'est
dans ma vie.
C'est vrai qu'ils avaient fait un film consacré aux pingouins.
Bah ouais,
je... voilà.
Ouais,
c'est ce que je vais
faire
ce soir, au lieu de mon DM d'économie.
Bah, je pense que c'est toujours mieux qu'un DM déco.
Oui.
Enfin bon.
Et sinon, en film, c'est totalement ni Ghibli ni Kung Fu. Je pensais les films d'Oslo aussi. Kirikou,
ça c'est
un autre genre encore.
Films d'enfance,
mais...
effectivement, qui sont. Enfin, moi, j'avais Kirikou, j'adorais ça.
Moi,
alors là, les fétiches. Pour le coup, de trucs, t'as les fesses qui font bravo, oui. Moi, j'étais terrifié quand j'étais petit, mais.
J'avoue, les fétiches, ouais, ça. Même Caraba, elle fait peur. Hein.
Ouais, mais voilà, c'est un antagoniste
exceptionnel. C'est génial, ce film.
Mais j'ai pas vu Azur et Asthma.
Azur et Asthma, c'est vraiment
magnifique.
Très, très bien.
Ouais, c'est
magnifique. En plus, il est beau, hein, vraiment.
Ah ouais, c'est magnifique.
J'ai jamais
c'est...
vu un film aussi beau, je
ouais,
pense.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un des plus beaux dessins animés. Du point de vue de l'animation, pure, c'est incroyable.
Bah, même l'histoire, en vrai.
Oui, non, mais clairement. Trop, trop bien.
Et ben voilà, c'est sur une unanimité, mais pas sur Kung Fu Panda 4.
Non.
On termine l'épisode de Kung Fu Panda 4. Voilà, c'était un concept un peu différent, mais c'était assez fun à enregistrer avec vous. J'espère que vous, chers auditeurs, aurez bien aimé aussi Kung Fu Panda 4. Donc, pour conclure là-dessus, c'est un film qui est en salle depuis 2 semaines. Et voyez-le, revoyez aussi vos films préférés, parce que voilà, quand même, il y a que ça de vrai. Et à la critique qu'on pourrait nous faire d'avoir été un peu trop sérieux au début sur ce film pour enfants, je vois pas en quoi c'est un problème de l'être, parce qu'un divertissement pour enfants, ça mérite quand même une certaine qualité. On en a parlé après. We'll be right back. Et avant de conclure l'émission, comme d'habitude, en tant que guide spirituel de l'ENS, nous vous donnerons nos conseils à nous. Et on commence avec Nathan.
Alors moi, je vais donner deux conseils qui sont deux sorties Netflix, en fait. Donc ça va ensemble. Bon, le premier, c'est pas trop comptoir du cinéma, c'est un peu voilà, pour le plaisir. Mais Netflix a sorti la semaine dernière Together, qui est donc... Waouh, l'accent, ouais, je me suis surpris moi-même. Très stylé.
Ça, c'est si well advanced.
Donc, qui est en fait une série documentaire sur l'épopée de Manchester City, l'équipe de football, l'année dernière, qui a remporté le triplé, donc championnat, coupe, Ligue des Champions. Et ils les ont suivis toute la saison, et le documentaire est vraiment très cool. C'est pas le cas de tous les documentaires sportifs, en particulier sous forme de séries comme ça, notamment ceux faits par Netflix, par exemple celui sur les Six Nations était vraiment pas terrible, mais là c'est vraiment très bien, on a les insights dans le vestiaire et c'est assez rafraîchissant. Et le deuxième conseil, donc plus cinéma pour le coup, c'est Replay, donc que pour le coup je n'ai pas encore vu, mais pour cause de préparation de la JDR, mais je vais m'y atteler évidemment. D'une part parce que c'est donc une nouvelle adaptation de Comme Plein Soleil et Le Talentueux Mr. Ripley, qui sont deux de mes films vraiment préférés. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. C'est donc cette fois sous la forme de série. Il y a une saison de, je crois, 7 épisodes d'une quarantaine de minutes. Donc c'est réalisé par Steven Zaillian. Donc j'ai perdu l'accent cette fois, et c'est évidemment, et c'est quand même un aspect fondamental de ma hype pour cette série, avec Andrew Scott dans le rôle principal, donc Andrew Scott, l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération, et qui va sans doute continuer à nous épater, mais pas seulement, il y a aussi Dakota Fanning, Johnny Flynn, enfin bref, voilà, ça a l'air d'être vraiment super, les premières images sont très jolies, et j'ai hâte de voir ça, donc... Voilà, pour ce que ça vaut, je vous le conseille.
Merci beaucoup, le conseil de Laura.
Moi, je vous conseille Mathis et Maxime de Xavier Dolan, qui est un film qui est sorti récemment, en 2019-2020, par là, et donc qui raconte l'histoire de deux amis d'enfance qui s'embrassent pour les besoins d'un court-métrage amateur. Et suite à ce baiser d'apparence anodine, s'instaure entre ces deux amis un doute et qui vont vraiment bouleverser leur vie. Et c'est un film que j'ai trouvé très délicat, qui traite un sujet très sensible d'une façon extraordinaire, et pour moi c'est l'un des meilleurs films de Xavier Dolan, parmi ceux que j'ai vus en tout cas. Voilà, donc je recommande Mathias et Maxime.
Merci beaucoup. Enfin, mon conseil à moi, c'est d'aller sur le site de débordement.fr, revue de cinéma en ligne, qui bon, vaut déjà en elle-même le coup, mais spécialement aujourd'hui, car vous y trouverez les épisodes de Radio Réel, une série de podcasts réalisée à l'atelier d'écriture critique de l'ENS, sous la direction d'Occitane Lacurie, lors du festival de documentaires parisien Cinéma du Réel, qui a lieu tous les ans au Centre Pompidou. Donc dans cet atelier d'écriture, on a débattu sur certains des films en table ronde, mais également on a fait des expériences sonores autour du centre et interviewé plusieurs réalisateuristes qui, pour certains, certaines, ont été au palmarès de cette 46e édition du festival. C'est le cas par exemple de Kumiana Novakova, dont le film Silence of Reason sur les viols commis par l'armée serbe en Bosnie a reçu le prix de la sélection internationale, ou de Jutao, réalisateur de The Periphery of the Base, lauréat du prix court-métrage. Mais vous pourrez encore entendre Pablo Alvarez Mesa, Simon Ripoll-Hullier, James Benning, des noms que moi non plus je ne connaissais pas du tout deux jours avant le festival, mais qui valent en fait le détour et la découverte. Donc vous entendrez leurs interviews dans des épisodes qui sont à chaque fois liés par une thématique diverse, mais toujours à l'image du festival, toujours politique, qu'il s'agisse de géologie décoloniale, de voix de combattantes, d'interrogations cybernétiques ou d'interrogations sur la construction d'un projet gigantesque par la Chine dans le désert de Gobi. Pour finir, en revenant à nos podcasts, si vous êtes membre fidèle de la fanbase du comptoir du cinéma, vous y reconnaîtrez la voix de Lucie Lambert, de Thomas Bingham ou encore la mienne. C'est disponible sur Spotify et sur débordement au pluriel.fr. Tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci à tous les deux, Nathan et Laura, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Drive Away Dolls d'Ethan Coen. Mais avant ça, aujourd'hui, date de sortie du podcast, c'est le 10 avril. Donc j'espère que vous vous serez bien trouver devant votre ordinateur sur journeedelaradio.fr ou mieux encore au Théâtre Cantor de l'ONS de Lyon pour notre épisode spécial sport et cinéma à partir de 20h. Et puis évidemment pour tout le reste de la journée, il y a des invités exceptionnels, ça va être très bien. Pour le reste, l'épisode normal sera comme d'habitude disponible la semaine prochaine sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. Le replay de la JDR sera lui disponible quand il le sera. Stay tuned, comme on dit. Bon, d'ici là, portez-vous bien, partagez-nous. Et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout, n'hésitez pas. On approche de la fin de la saison, mais c'est toujours, y a toujours des places pour les épisodes à venir. Et puis, vous pouvez toujours garder l'été après pour réfléchir et nous rejoindre pour la saison 2. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. À bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor.